Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre, très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 10 octobre 2021. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Amir Abdollahian dit à Monsieur Le Drian ses quatre vérités. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, le pétrolier Soutis, saisi lors de l'opération du CGRI en mer d'Oman, a été libéré par l'Iran. Lors du sommet régional sur l'Afghanistan tenu à New Delhi, Chamkhani exprime la volonté de l'Iran d'aider à résoudre la crise humanitaire en Afghanistan. Et puis un comité des Nations Unies a condamné les atrocités israéliennes contre le peuple palestinien. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le pétrolier Soutis, saisi lors de l'opération du CGRI en mer d'Oman, a été libéré par décision de justice iranienne après avoir vidé le pétrole appartenant à la République islamique d'Iran au port de Bandar Abbas. Selon ce rapport, l'amiral Alireza Tanksiri, commandant de la marine du CGRI lors d'une cérémonie en l'honneur des forces iraniennes, agissant contre la piraterie américaine qui s'est tenue en présence du général de division Hossein Salami au siège du CGRI, a expliqué aujourd'hui, je cite, « Selon les prévisions et les dispositions prises, nous étions prêts à effectuer une mission majeure dans la mer d'Oman contre les navires militaires américains qui étaient entrés dans la Seine pour soutenir les pirates. » Se référant à l'action des Américains dans la surveillance du pétrolier et la mobilité des unités opérationnelles de la force, l'amiral Tanksiri a noté « Des navires américains ont été déployés à proximité des lieux et autour du pétrolier, faisant voler des drones et des hélicoptères pour empêcher notre mission de soutenir les voleurs de pétrole à deux reprises. » La base d'information du Corps des gardiens de la révolution islamique CGRI a annoncé la libération du pétrolier Soutis après avoir vidé le pétrole de la République islamique d'Iran à Bandar Abbas sur décision de justice iranienne. Majid Tartravanchi, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, a déclaré que les sanctions unilatérales empêchent les pays touchés par les sanctions d'accéder aux ressources financières et de développement nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable. L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, dans un discours prononcé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale, privation, inégalité et conflit, a ajouté, je cite, « Des problèmes tels que la pauvreté, l'injustice et les inégalités peuvent servir de facteurs qui intensifient les conflits et sapent les opportunités d'une paix durable dans les pays impliqués dans le conflit. » Selon les rapports de l'ONU, la fourniture des besoins humanitaires dans les situations de conflit est en augmentation et atteint un niveau record aujourd'hui. L'aide humanitaire peut guérir les symptômes, mais ne peut pas guérir la maladie elle-même. Par conséquent, mieux vaut prévenir que guérir. À cet égard, la prévention des conflits est l'une des principales obligations de la Charte des Nations Unies. La responsabilité principale de cette obligation incombe aux États membres, a-t-il souligné. COP 26, l'Iran a protesté contre l'impact des sanctions américaines sur les affaires humanitaires. Lors d'une visite de 3 jours à Glasgow, le chef de l'Organisation iranienne de protection de l'environnement a annoncé la ferme protestation de l'Iran contre les sanctions américaines lors du sommet COP 26 et a rencontré de hauts représentants de délégations et d'organisations internationales et averti que les affaires humanitaires sont prises en otage à cause de coercitions de certains pays. Le chef de l'Organisation de protection de l'environnement iranien a déclaré lors de la 26e conférence des Nations Unies sur le climat qu'en matière de coopération internationale et de toutes les parties prenantes dans le monde, l'Iran est malheureusement confronté à un obstacle appelé terrorisme économique. Le vice-président iranien a noté qu'il s'agit d'une longue, triste histoire de la prise des affaires humanitaires à des fins politiques par certains pays. Le vice-président iranien est arrivé lundi dernier à Glasgow en tant que chef de la délégation iranienne. Il y a eu des réunions importantes avec les chefs de certaines des délégations participantes et les directeurs d'organisations internationales en marge du sommet sur le climat COP 26. Lors du sommet régional sur l'Afghanistan tenu à New Delhi, Shamkhani a exprimé, je le disais en titre, la volonté de l'Iran d'aider à résoudre la crise humanitaire en Afghanistan. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran a souligné lors du sommet régional d'Afghanistan à New Delhi la nécessité d'un effort concerté pour établir un gouvernement inclusif et faire face à la crise humanitaire en Afghanistan. L'Iran est prêt à fournir toutes sortes de facilités telles que les communications et les installations portuaires, y compris le port de Chabahar, pour résoudre le problème de la crise afghane, a déclaré Ali Shamkhani. M. Shamkhani a remercié l'Inde d'avoir accueilli la réunion, ce haut responsable iranien a ajouté « La première et deuxième réunion sur la sécurité régionale se sont tenues en Iran qui, lors de la deuxième réunion à Téhéran, des collègues indiens ont accepté d'accueillir la réunion mais ont été contraints de reporter le programme d'un an en raison de l'épidémie de la maladie COVID-19 ». Le secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale a déclaré que la politique de construction de l'État et la nation suivie par les États-Unis en Afghanistan avait échoué et que même la tâche la plus fondamentale du pays, à savoir la mise en place de l'armée et du système de sécurité, était plus inefficace qu'aux d'autres secteurs. L'Iran est devenu membre permanent du Comité scientifique des Nations Unies des rayonnements ionisants. La République islamique d'Iran est devenue membre permanent du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets de rayonnements ionisants malgré l'opposition du régime sioniste et des États-Unis. À la suite de plusieurs cycles de négociations sur le projet de résolution soumis par l'Australie à la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation et son approbation unanime à l'Assemblée générale des Nations Unies, la République islamique d'Iran a pu changer sa position d'observateur dans cette institution de la science internationale exceptionnelle à membre à part entière. Autre thème, Biden prolonge d'un an l'urgence nationale américaine contre l'Iran. Le président américain a signé un décret étendant la loi sur l'urgence nationale à l'Iran. Biden dit que les mesures adoptées dans la loi doivent se poursuivre pendant encore un an, car les relations entre les États-Unis et l'Iran ne sont pas encore normalisées. L'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, a déclaré l'urgence en 1979. Cela s'est produit après que des étudiants iraniens ont pris le contrôle de l'ambassade américaine à Téhéran, accusant son personnel de chercher à renverser le gouvernement issu de la révolution populaire. Les deux pays n'entretiennent aucune relation diplomatique depuis plus de 4 décennies. L'ancien président américain Donald Trump a quitté unilatéralement l'accord international sur le nucléaire iranien il y a 3 ans. Maintenant, Biden dit qu'il cherche la diplomatie avec l'Iran. 6 séries de pourparlers ont déjà eu lieu. Pour sauver l'accord en agonie à Vienne, l'Iran exige des garanties que les sanctions réimposées par Trump soient levées et que les États-Unis ne rompent plus les termes de l'accord. Mais pour l'instant, aucun engagement de Washington. Une autre étape conforme au changement majeur de la politique des Émirats arabes unis envers la Syrie. Le ministre des Affaires étrangères émirati a rencontré le président syrien Bachar Assad à Damas. Cheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan et Assad ont discuté des moyens de développer les relations bilatérales et la coopération économique. Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude au sujet de la réunion. Il s'agit de la première visite de ce type d'un haut responsable émirati depuis le début de l'insurrection terroriste soutenue par l'étranger en Syrie il y a 10 ans. Les Émirats ont rouvert son ambassade à Damas fin 2018. C'était l'un des principaux États arabes soutenant les terroristes luttant pour renverser le gouvernement d'Assad. Cependant, les avancées de l'armée syrienne contre les terroristes ont entraîné un changement de politique dans certaines capitales arabes comme Abu Dhabi. Un comité des Nations Unies a condamné les atrocités israéliennes contre le peuple palestinien et a adopté 6 résolutions contre les actions du régime. Le comité a critiqué Israël pour sa violation systématique des droits des Palestiniens. Il a également condamné l'usage de la force contre les Palestiniens, en particulier ceux de la bande de Gaza, qui a fait des victimes civiles. Le comité a également condamné le blocus de la bande de Gaza par le régime et ses activités illégales de colonisation sur les terres occupées. Il a en outre condamné les actions provocatrices des colons israéliens contre les Palestiniens. Le comité a également dénoncé les démolitions systématiques des maisons du régime et ses arrestations et emprisonnements arbitraires de Palestiniens. Les résolutions ont été adoptées malgré l'opposition des États-Unis, du Canada et d'Israël. Fin de ce journal. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Amir Abdullahian dit à M. Le Drian ses 4 vérités. Est-ce concevable de voir une France dont l'industrie militaire a été outrageusement humiliée par un axe anglo-saxon qui a poussé l'Australie à faire une bouchée de pain du contrat d'achat des sous-marins français, plaider la cause US encore et encore auprès de l'Iran et demander à ce dernier à renoncer à ses missiles et drones pour les beaux yeux des Yankees qui traînent même dans la boue leurs propres alliés. L'entretien téléphonique de M. Le Drian, trop en colère contre les États-Unis, dans le cadre de l'affaire AUKUS, et le ministère iranien des Affaires étrangères en porte d'ailleurs les traces. L'Iran veut un bon accord, c'est-à-dire un accord que les Américains ne puissent bousiller pour un oui ou pour un non. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et son homologue français, Jean-Yves Le Drian, ont discuté d'un éventail de sujets, dont les relations bilatérales et les négociations prévues à Vienne, lors d'une conversation téléphonique ce mardi 9 novembre. Hossein Amir Abdollahian a souhaité que les entretiens Téhéran-Paris aboutissent à un essor concret des coopérations bilatérales. L'Iran est prêt à développer ses relations avec la France sur un fondement de respect mutuel et dans le cadre des intérêts communs dans divers domaines, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Monsieur Amir Abdollahian a ensuite rappelé comment l'irresponsabilité des États-Unis et l'inaction des 3 signataires européens de l'accord nucléaire ont entraîné la situation actuelle. l'Iran entend trouver un bon accord, mais cela nécessite des préalables, dont le retour des parties adverses à leurs engagements et une véritable levée des sanctions. Le haut diplomate iranien a évoqué les sanctions récemment adoptées par les États-Unis contre l'Iran, ajoutant que des démarches du genre expliquaient la méfiance continue de la République islamique d'Iran vis-à-vis des Américains. Il faut que des garanties valables soient présentées et que des vérifications efficaces soient effectuées, a-t-il dit. Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, il relève du droit de tous les pays de développer un programme de défense. Nous continuons de renforcer nos capacités défensives au mépris des comportements contre-productifs des États-Unis, a souligné Amir Abdollahian. Il a déclaré que la République islamique d'Iran avait une volonté sérieuse et ferme pour s'asseoir à la table du dialogue et trouver un bon accord. Il faut que l'Agence internationale de l'énergie atomique évite de politiser le dossier, a encore souligné le diplomate, ajoutant que l'Iran continuait de coopérer avec l'agence dans le domaine technique. De son côté, le ministre français des Affaires étrangères a déclaré que Paris soutenait le retour de toutes les parties à l'accord nucléaire et qu'il faisait tout pour que cela soit réalisé. Il a ensuite espéré que les négociations prévues à Vienne seraient assorties des progrès rapides. Amir Abdollahian a eu des entretiens téléphoniques avec ses homologues russes, chinois, britanniques et allemands pendant les derniers jours. Les diplomates se sont penchés sur les relations bilatérales et les négociations prévues le 29 novembre à Vienne.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Dans le débat d'aujourd'hui, il sera question de l'activité navale de l'Iran dans le golfe Persique. En effet, l'Iran a démontré en assurant la sécurité énergétique mondiale en neutralisant des opérations de piratage des États-Unis dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique. Alors, les États-Unis jusqu'ici se croyaient tout permis, alors que l'Iran donc a prouvé encore une fois qu'il est capable d'assurer donc ses sécurités dans la région. Et nous parlerons bien sûr dans ce débat des failles fondamentales et de manque d'intelligence dans les opérations militaires des États-Unis, surtout récemment, ils ont démontré, dans le détroit d'Ormuz. Nous parlerons bien sûr de cette crise diplomatique entre les États-Unis et la France, où les États-Unis, donc maladroitement, a volé sous le nez de la France des contrats militaires importants, des sous-marins pour l'Australie. Des experts des questions internationales vont faire vivre le débat d'aujourd'hui, juste après ce reportage.
Un groupe de réflexion américain a écrit dans une récente analyse que l'Iran fait une démonstration de sa capacité à assurer la sécurité énergétique mondiale dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Dans une analyse récente, la puissance navale de l'Iran dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, Middle East Institute a écrit que la fermeture pour plusieurs années du détroit ne nécessiterait que 300 mines et que la marine américaine serait totalement incapable de faire face à cette menace à court et à moyen terme. De toute évidence, la force navale du CGRI, en annulant la saisie par l'US Navy d'un pétrolier transportant du pétrole iranien en mer d'Oman, n'a pas seulement démontré la nullité stratégique et tactique de l'arrogance mondiale que l'on retrouve au stade terminal de la décrépitude et qui se croyait pourtant tout permis jusqu'à l'avènement de la révolution islamique. Cette opération rapide des forces navales du CGRI est une opération anti-piratage qui révèle entre autres, des failles fondamentales, un manque d'intelligence et surtout l'empirisme des puissances déclinantes qui s'accrochent à des stratégies surannées. Cela intervient alors qu'en septembre dernier, l'annulation du contrat FSP par les Australiens, car séduit par une offre conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni, n'a pas tardé à tourner en crise diplomatique ouverte. Mais la réaction française face à cette trahison, à maintes reprises, était critiquée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À gauche, par exemple, le sénateur du Parti socialiste, Rachid Temal, s'est questionné sur les propos du président américain qui évoque une simple maladresse dans ce dossier. J'imagine si les États-Unis avaient été habiles alors. Tout cela ressemble bien à une deuxième humiliation, sans broncher, a dénoncé sur Twitter le parlementaire.
Alors voilà pour le reportage. Alors comme j'ai promis, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités. En commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour à votre plateau et à votre public.
C'est un plaisir de vous recevoir, Luc Michel. Un grand bonjour également à M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales qui nous joint depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe et bien sûr bonjour à Luc Michel.
Un débat prometteur, chers amis. Nous parlerons bien sûr de cette capacité navale de l'Iran pour assurer la sécurité énergétique mondiale dans la région du Golfe Persique. Alors, Luc Michel, bien sûr, il est caché pour personne que l'Iran est là pour assurer la sécurité, surtout la sécurité énergétique. En neutralisant, on a vu tout récemment, les opérations de piratage des États-Unis qui ont été neutralisées par l'Iran.
La puissance maritime de l'Iran, elle ne s'exprime pas seulement, d'ailleurs, dans le Golfe Persique, puisque maintenant, la marine iranienne est présente dans l'océan Atlantique, dans la Manche, dans la Baltique. L'amiral commandant votre flotte a participé au 325e anniversaire de la marine russe à Saint-Pétersbourg. Et ensemble, les marines russes et iraniennes neutralisent les Occidentaux dans le Golfe de Guinée, à l'entrée de la mer Rouge, mais également dans l'entrée de l'océan Indien. Il y a en particulier la signature entre l'Iran et Madagascar d'un accord naval qui ouvre à la marine de guerre iranienne tous les ports de Madagascar. Les Français, d'ailleurs, ont réagi maladroitement puisqu'ils avaient tenté il y a quelques mois un coup d'État et un assassinat du président malgache. C'est donc une série d'erreurs. Mais ce qui saisit actuellement toutes les puissances occidentales, c'est ce que les Romains appelaient l'hubris. C'est-à-dire l'excès d'orgueil de puissance qui fait que ces gens, maintenant, ou une politique militaire, en particulier dans le domaine qui est irréaliste, qui ne tient pas compte de l'évolution de l'organisation de la coopération de Shanghai en un bloc militaire et l'apparition d'une contre-OTAN, en particulier sur les mers.
Oui, merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Hugon depuis Paris. Alors, M. Hugon, nous parlons bien sûr de cette démonstration de force, des forces navales de l'Iran en neutralisant cette opération de piratage qui a été très maladroitement organisée.
Oui, alors vous savez, les États-Unis, et comme beaucoup de pays européens qui interviennent dans la région, accumulent maladresse sur maladresse. Et je pense que c'est une erreur fondamentale en politique étrangère de voir se créer un grand nombre d'injustices de la part des États-Unis vis-à-vis de pays comme l'Iran. Je pense que l'Iran devrait être un véritable allié de l'Union européenne. Allié aux États-Unis, ça va être bien sûr très difficile parce que les États-Unis n'ont pas du tout la lucidité de voir la réelle politique au niveau international. Alors que l'Iran a démontré un peu sa position de force, c'est une certitude, et ils ont eu raison de le faire. Je rappelle quand même qu'ils ont quand même une partie de leur côte sur le Golfe. Donc il est tout à fait légitime que l'Iran intervienne. Ce qui est nettement moins légitime, ce sont les nombreuses interventions occidentales et qui se permettent depuis maintenant plus d'un demi-siècle d'intervenir et d'ingérer dans les affaires d'autrui. Je ne sais pas comment réagiraient les États-Unis si des pays comme l'Iran ingéraient dans leurs affaires et économiques. Et je pense qu'ils ne seraient pas vraiment ravis de voir une telle situation arriver un jour. Moi, je crois surtout que les États-Unis, comme l'Union européenne, sont des pays qui n'ont plus les moyens de leurs ambitions. Hein, ce sont des pays qui vivent encore sur des relents de colonialisme et se permettent de vouloir imposer leur dictat à un certain nombre de pays. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une politique qui est totalement dépassée. Et aujourd'hui, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne, devraient émettre et prendre de grandes réserves vis-à-vis des pays comme l'Iran, puisqu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus du tout en position de force, puisque je rappelle quand même que les États-Unis sont un pays financier, tout comme l'Union européenne d'ailleurs. Donc on n'a plus les moyens de nos ambitions, et je pense qu'il faudrait mieux se tourner vers la diplomatie afin de trouver des accords avec des pays comme l'Iran, plutôt que de vouloir les affronter de face dans un duel qui ne sert à rien et qui est totalement stérile sur un plan international.
Luc Michel, apparemment, les États-Unis ne sont pas prêts à se livrer au charme de la démocratie. Et, au contraire, ils ont toujours accès à la force. Est-ce qu'il est temps que les États-Unis se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se permettre de tout faire dans la région, aller jusqu'à donc maladroitement opérer des opérations de piratage?
Écoutez, la piraterie, c'est la lutte contre la piraterie. C'est le prétexte de l'ingérence des marines occidentales dans une zone qui va du golfe de Guinée jusqu'à l'entrée de l'océan Indien. Mais en réalité, les marines occidentales pratiquent elles-mêmes la piraterie, l'interception de navires, etc. C'est quelque chose qui n'est plus acceptable et qui correspond, comme l'a bien expliqué M. Hugon, à une vision dépassée des choses. Mais le problème des États-Unis, c'est que depuis le début du 19e siècle, il ne faut pas oublier que les États-Unis, ce sont les inventeurs avec l'Allemagne de la géopolitique. La géopolitique a été définie par des amiraux anglo-saxons et ils ont défini toute leur capacité mondiale autour d'une projection de la puissance et en particulier la projection de la puissance des flottes au niveau mondial. Dans l'hymne des marines américains, on parle des rivages de Tripoli et ça date du 19e siècle. Donc l'ambition américaine, elle n'était pas uniquement de dominer l'étranger proche, comme le disait la doctrine de Monroe quand ils ont éjecté les puissances européennes, mais dès le 19e siècle, les Américains voulaient être présents, notamment en Méditerranée. C'est une époque terminée, le temps des cas malheureux qu'il va pour ramener les Occidentaux à une vision réaliste des choses. Mais c'est un processus. Le problème, c'est que les géopoliticiens américains, au contraire, ils estiment actuellement que les États-Unis ont encore une quinzaine d'années dans lesquelles ils vont être position de force, et certains sont tentés par ce que j'ai appelé un banco géopolitique, c'est-à-dire de tenter une opération de force pour garder la suprématie. C'est une voie suicidaire pour tout le bloc occidental, d'autant plus que le bloc occidental, s'il est une unité militaire, est parcouru de fractures qui sont les guerres économiques, comme vient encore de le révéler la querelle des sous-marins australiens.
Et Luc Michel, vous avez parlé tout à l'heure de cette vision réaliste qui ne sont pas adoptées par l'Occident et les États-Unis. De quelle vision parlez-vous?
À un moment donné, la politique américaine était réaliste. C'était l'époque de Kissinger et de Brzezinski. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec leur définition de la géopolitique, mais la géopolitique était quelque chose de rationnel. C'est-à-dire, c'était, comme le disait Zbigniew Brzezinski, un grand échiquier avec deux adversaires qui s'opposaient, etc. Mais depuis la fin de la Première Guerre froide, on n'est plus dans cette vision rationnelle. Et avec Trump, on est passé du stade du grand échiquier à ce que j'ai appelé les tables de poker géopolitique. C'est-à-dire que les États-Unis ont tenté une série de coups de poker géopolitiques et ils ont été suivis d'ailleurs par d'autres membres du clan occidental, notamment les Français et les Turcs. Ce qui oppose d'ailleurs principalement la France et la Turquie, ce ne sont pas des rivalités économiques, c'est une tentation, justement, de s'emparer de positions de force géopolitique par ces coups de poker. Tant que l'Amérique ne reviendra pas à une vision rationnelle géopolitique qui est celle de la Russie, de la Chine ou de l'Iran, ils vont marcher à l'abîme et courir à la catastrophe. Ça explique leur recul, mais ça explique aussi le succès de leurs adversaires.
Tout à fait. Merci, Luc Michel. Monsieur Hugon, alors nous avons entendu les propos de Monsieur Luc Michel. J'aimerais que vous développiez à présent davantage des failles fondamentales et de manque d'intelligence dans l'attitude des États-Unis.
Oh bien, je pense que le manque des réalités aux États-Unis et dans l'Union européenne est vraiment flagrant. Hein. Je pense qu'on vit aujourd'hui sur des contextes de politique étrangère qui sont complètement dépassés et qui s'accrochent encore à des concepts de politique étrangère qui ne sont plus du tout adaptés à la situation d'aujourd'hui. Donc les failles, elles existent, elles sont bel et bien là. Et je pense que c'est un véritable problème de réelle politique, puisque aujourd'hui, c'est la diplomatie qui devrait prendre le dessus sur la force, de façon à trouver des accords avec des pays comme la Russie, comme l'Iran, de façon à trouver des solutions qui soient pérennes dans l'avenir. Luc Michel le disait, et il a tout à fait raison, cette politique conduite, que ce soit par les Américains ou les Français, va nous amener à une situation critique. C'est une politique qui est condamnée à l'échec. Et d'ailleurs, on le voit déjà sur le terrain. Les États-Unis subissent des échecs depuis quelques années aujourd'hui, que ce soit en politique ou sur le plan militaire. On a bien vu le retrait américain, que ce soit d'Irak, en Afghanistan. On ne peut pas dire que leur intervention a été très très brillante. Ce qu'ils ont fait, c'est amener le chaos dans une région qui était déjà très chaotique, et ce chaos se poursuit par la faute de leur intervention. Donc je pense qu'il y a vraiment un manque de réalisme dans leur façon d'aborder les problèmes internationaux. Il y a toujours ce relent d'orgueil que l'on trouve d'ailleurs aussi bien côté français que du côté américain, que du côté britannique. Mais ce côté orgueil, je trouve qu'il est totalement dépassé aujourd'hui, puisqu'en fait, nous avons quand même bientôt 8 milliards de personnes sur Terre, ce qui est un véritable problème, cette surpopulation. Cette population va engendrer des appauvrissements économiques et risque de créer des situations explosives dans certaines parties du monde. Et là encore, si on n'est pas capable déjà de gérer une situation comme avec l'Iran ou avec la Russie, qu'est-ce que ça va être le jour où on a un embrasement dans certains pays et un effondrement économique? Moi, je suis extrêmement pessimiste pour l'avenir, parce que je me dis que dans les 15 ans qui viennent, on va voir des bouleversements géostratégiques qui vont être absolument incroyables, dont on n'imagine pas encore les conséquences qu'elles auront pour les 15 ou 20 ans qui viennent.
Oui. Luc Michel, est-ce qu'on peut penser à un espoir pour l'avenir de la politique étrangère des États-Unis? Car cette fois-ci, ce sont des groupes et des institutions politiques qui ont admis donc concrètement de la capacité navale de l'Iran pour assurer la sécurité dans la région du Golfe Persique.
Donc, je ne crois pas à un retour du réalisme, parce qu'il y a une dimension supplémentaire, c'est l'Afghan. La propagande, c'est une dimension de la guerre moderne, notamment de la guerre médiatique. Mais lorsque vous croyez votre propre propagande, vous courez à la mort et au suicide. L'exemple typique, c'est le Troisième Reich en 1941, qui attaque l'Union soviétique en croyant la propagande allemande qui décrit l'Union soviétique comme un État dégénéré aux mains d'un système chaotique, alors que l'Union soviétique, sur le niveau militaire et industriel, est supérieure à l'Allemagne et que on l'ignore souvent, ce ne sont pas les Allemands qui ont inventé la Blitzkrieg en 1939, c'est le général Joukov en Mongolie extérieure contre le Japon en 1938. C'est la même chose avec les États-Unis. Depuis le régime de Bush 2, ils croient à leur propre propagande. En 2002, il y a un livre qui sort, c'est le manifeste des néoconservateurs, c'est le chef de file de ceux-ci, Bill Kristol. Il écrit un livre, Notre chemin commence à Bagdad. Dedans, ils expriment des opinions irréalistes, c'est-à-dire tout d'abord que le modèle occidentalo-américain, c'est le modèle universel, c'est vraiment la démocratie avec un grand L, et ils croient que les populations vont se soulever pour appliquer ce modèle américain, notamment en Irak et en Afghanistan. Ça conduit à deux catastrophes géopolitiques que les États-Unis, même s'ils ont tenté de s'en sortir par la géostratégie du chaos, c'est une politique qui débouche directement sur l'irréalisme de la politique de Trump. Actuellement, nous avons des gens, Trump a mené une politique irréaliste, Macron se comporte encore comme s'il était un proconsul au temps du colonie du 19e siècle. Quand vous le voyez intervenir en Afrique, au sommet de Montpellier, ou au Liban lors de ses visites, c'est un proconsul occidental. Il a encore démontré l'irréalisme lorsqu'il a prétendu prendre le sommet de la réunion de la COP26 il y a quelques jours. Lorsque vous écoutez le discours de Macron, vous avez l'impression que vous êtes devant le chef du monde. Et en réalité, la France, c'est une petite puissance géopolitique mineure qui est sur le déclin. C'est comme cela dans tous les domaines. Erdogan fait la même erreur, c'est-à-dire que Erdogan croit qu'il est en train de reconstituer l'Empire ottoman. Ce sont des objectifs irréalistes. Donc je ne crois pas que le bloc occidental reviendra au réalisme. Et je pense que, puisque les géopoliticiens américains prévoient la Troisième Guerre mondiale, ils sont les seuls dans ce cas-là. Eux, ils en parlent ouvertement. Des gens comme George Friedman, qui est le chef de file de la géopolitique américaine, c'est l'ancien patron de Stratfor. Lui, il évoque la Troisième Guerre mondiale entre 2005 et 2070. Eh bien, cette Troisième Guerre mondiale, contrairement à ce qu'ils pensent, je suis persuadé, moi, qu'ils vont la perdre. D'autant plus que leurs adversaires, eux, sont des gens réalistes. Il y a notamment, puisque nous avons commencé à débattre de la marine, il y a justement ce plan de Vladimir Poutine pour reconstituer des flottes russes sur tous les océans, comme au temps de Brejnev et de l'amiral soviétique Gorchov. Il y a le plan de la marine iranienne qui, visiblement, maintenant a des objectifs de géopolitique, non pas mondial, mais qui dépasse les objectifs régionaux. Et enfin, il y a la marine chinoise aujourd'hui qui a quitté la géopolitique de l'étranger proche pour se projeter en Afrique, dans le golfe de Guinée, dans l'océan Atlantique. C'est tout cela qui n'est pas pris en compte par les Américains. Une politique réaliste, elle voudrait se concilier, se partager le monde en zone d'influence. Ça suppose que les États-Unis ne dominent plus l'Europe. L'avenir au 22e siècle, ce sont des occidentaux autocentrés, les États-Unis, mais ramenés comme une puissance régionale, et qui feront des accords géopolitiques entre eux bilatéraux. C'est l'avenir, c'est décrit tel quel depuis le début du 20e siècle par les géopoliticiens, et malheureusement, l'Amérique ne se dirige pas vers cet avenir.
Monsieur Egon, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Luc Michel quand il parle des pays irréalistes et des pays qui ont les pieds sur terre?
Ah oui, ben tout à fait, là, je suis tout à fait d'accord avec Luc Michel. Il est vrai qu'on a en Europe ou aux États-Unis une vision totalement décalée des réalités de la politique internationale. Moi, je pense que le problème, c'est que tout ceci, même si ça ne conduit pas à un véritable conflit mondial, parce que je ne le vois pas arriver de cette façon, je pense malgré tout que le système financier que l'on a dans le monde occidental va s'effondrer dans les années qui viennent, et ça va faire des dégâts impressionnant au niveau de notre propre économie. Donc nous n'aurons plus la possibilité financièrement de pouvoir intervenir dans ces pays. Et comme le disait très bien Luc Michel, on va avoir quelques zones d'influence, on deviendra un peu des puissances régionales, mais on n'aura plus cette ambition de pouvoir gérer le monde. D'abord, nous n'en sommes pas capables, je dirais, sur un plan politique, mais on n'a pas les moyens financiers de notre politique. Donc, il est clair que dans les 20 ans qui viennent, je pense qu'on va voir de très grands bouleversements dans la stratégie de la gestion du monde. Et ce qui va être un point positif pour un grand nombre de pays, de pouvoir se développer et se développer à leur rythme, ce qui est une très bonne chose pour la paix et pour le bien-être des peuples, si je peux m'exprimer ainsi. Puisque si on laisse faire le monde occidental dans la gestion du monde, eh bien, ça va nous amener droit, non pas vers un conflit mondial, puisque je ne le pense pas, mais à des conflits locaux qui seraient extrêmement violents. Donc, c'est une très bonne chose que cette crise financière puisse arriver dans les années qui viennent, puisque ça va remettre, réajuster, rééquilibrer la situation financière mondiale, et ça va obliger les pays occidentaux à voir la réalité en face. Et il n'y a qu'une possibilité pour ça, c'est qu'il y ait cet effondrement financier.
Pour confirmer ce que vous dites un peu, Philippe Hugon, donc cette humiliation française avec cette rencontre de Biden avec Emmanuel Macron après avoir volé sous le nez de la France maladroitement, ils ont admis eux-mêmes, les États-Unis maladroitement, donc ce contrat important des sous-marins de l'Australie qu'ils ont annulé justement.
Oui, alors quand on dit maladroitement, je suis prêt à accepter le titre de maladroitement. Moi, je pense que c'était délibérément fait afin de torpiller les Français sur le dossier des sous-marins. Je pense que quand on a des dossiers qui pèsent des dizaines de milliards d'euros, eh bien, je pense qu'il n'y a plus du tout de sentiment dans les affaires. Et les Américains étaient très, très contents de récupérer un certain nombre de contrats. Ils ont déjà torpillé hein, dans l'histoire le Concorde, ils ont torpillé un certain nombre de contrats, hein, on a bien vu leur façon de faire. Moi je pense que c'est vraiment pas réaliste de penser qu'on puisse faire un front commun avec les États-Unis. Je pense que les États-Unis sont en position de survie actuellement, ce qui est le cas également de l'Europe d'ailleurs, mais je pense pas que c'était si maladroitement effectué, je pense qu'au contraire ça a été délibéré de la part des Américains de façon à ne pas passer à côté d'un contrat aussi juteux que les sous-marins. Alors après, bien sûr, vous avez lors des réunions comme ça entre chefs d'État, des gens qui vont s'excuser ou à demi-mot, si je puis dire. Mais par ailleurs, ça ne change pas grand-chose à la réalité de la situation. D'où l'intérêt qu'il faudrait aujourd'hui que l'Europe soit vraiment très forte, de façon à pouvoir faire un véritable front commun envers les États-Unis, puisqu'ils se permettent tout depuis une soixantaine d'années et ils n'ont plus cette position aujourd'hui. Donc ils utilisent des moyens très, très malhonnêtes parce que je pense que ça a été fait malhonnêtement de façon à torpiller ce marché.
Tout à fait. Philippe Hugon, merci beaucoup depuis Paris d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à M. Luc Michel, géopoliticien qui a gentiment accepté notre invitation depuis Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Flambée des prix de l'électricité. Les Français condamnés à subir. Une dizaine d'États membres de l'Union européenne rejettent la proposition française de découpler les prix du gaz et de l'électricité. Un coup dur pour une France dont la majorité de l'électricité est produite à bas coût grâce au nucléaire. Face à la flambée des prix de l'électricité et du gaz, les Français vont devoir se contenter de leur chèque énergie. Sans surprise, la réforme du marché européen de l'énergie plébiscitée par Bruno Le Maire n'est pas passée. Tant à Bruxelles, où dès la mi-octobre, Kadri Simpson, commissaire à l'énergie, avait renvoyé le ministre français dans les cordes qu'au niveau des 27 partenaires européens eux-mêmes, dont il aurait fallu obtenir un soutien unanime. Nous ne pouvons soutenir aucune mesure qui entre en conflit avec le marché intérieur du gaz et de l'électricité, par exemple une réforme ad hoc du marché de gros de l'électricité, conclut ainsi une déclaration commune signée de 9 pays à l'issue du Conseil des ministres de l'énergie de l'Union européenne. Emmenés par Claude Turm, ministre luxembourgeois de l'énergie, ils étaient même 11, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Estonie, Finlande, Irlande, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas et Suède, à s'opposer à la proposition de Bruno Le Maire, uniquement soutenue par ses homologues espagnols et grecs. Celui-ci défendait notamment un découplage du prix de l'électricité de celui du gaz dans la mesure où la France produit la quasi-totalité de sa consommation intérieure grâce à son parc de centrales nucléaires et de barrages hydroélectriques. Une singularité au sein de l'Union européenne dont 37% de la production électrique est encore assurée par des énergies fossiles, carbone et gaz. Mais à l'inverse de Bruno Le Maire, ses 11 ministres, dont les pays n'ont pas ou plus de production électrique nucléaire, jugent que ce marché européen construit conjointement et progressivement au cours des dernières décennies a bien fonctionné pendant 20 ans avec des prix réellement compétitifs. Ils estiment ainsi qu'il serait extrêmement dangereux d'interférer avec ce marché dans la mesure où cela pourrait détruire toute confiance en celui-ci. Pour ces capitales, la boîte à outils présentée le 13 octobre par la Commission européenne, à savoir l'autorisation d'octroyer à la population des chèques énergie ainsi que de baisser la TVA, contient des mesures amplement suffisantes pour réduire l'impact de la hausse des cours sur les consommateurs et les entreprises jusqu'au printemps. Date à laquelle il est espéré que les cours en question reviendront à des niveaux raisonnables. Un optimisme que ne partage pas totalement le gouvernement français. En France, le blocage des prix ne s'arrêtera pas en avril, mais fin 2022. Une baisse des taxes est même dans les cartons pour maintenir ce bouclier tarifaire vaille que vaille au cas où les cours ne baisseraient pas. Quant au long terme, les 9 États membres signataires appellent à accélérer l'installation des énergies renouvelables. Pour eux, la transition énergétique impulsée à l'échelon européen pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 n'est pas une cause de la crise actuelle, mais une partie de la solution. Depuis plusieurs mois, c'est pourtant ce recours trop massif aux énergies renouvelables qui est pointé du doigt. Soumis aux caprices de la météo, tant l'éolien que le solaire accentuent la crise ainsi que la dépendance aux énergies fossiles. L'installation de centrales à gaz va en effet de pair avec la multiplication de ces moyens de production intermittents. Un constat à charge qu'a dressé un nos responsables européens. Il y a beaucoup d'énergies renouvelables aujourd'hui, en Europe en particulier, et il se trouve qu'au cours des 6 dernières semaines, il n'y a pas eu de vent en Europe. Développé fin septembre, Thierry Breton, sur le plateau du Grand Jury. Le commissaire européen au marché intérieur énumérait alors les raisons de la flambée des prix de l'énergie. La Grande-Bretagne, c'est une catastrophe en ce moment parce qu'ils dépendent beaucoup des éoliennes, insistait-il. Par ailleurs, la création d'un autre marché européen, dit du carbone, toujours dans cette optique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, est également accusé d'avoir contribué à la flambée des cours de l'électricité. En plus de la matière première, les entreprises du vieux continent produisant de l'électricité à partir des énergies fossiles doivent également acheter des quotas de droits à polluer. Or, eux aussi sont régis par la loi de l'offre et de la demande et en forte hausse, plus 60% cette année. Qu'à cela ne tienne, les contradicteurs de Bruno Le Maire estiment que ce marché européen est en réalité un élément clé pour faciliter la transition énergétique voulue par Bruxelles. Ils appellent donc, en plus d'accélérer l'installation des énergies renouvelables, à renforcer l'interconnexion des réseaux électriques entre États, soit l'exact opposé de ce qu'espérait le ministre français qui mettait en avant l'indépendance énergétique de la France. Pour la faire courte, si les Français estiment qu'ils ne devraient pas payer aussi cher une électricité qu'ils sont capables de produire à bas coût grâce à leurs centrales nucléaires et à leurs barrages hydroélectriques, leurs voisins européens veulent que cette électricité française contribue à faire baisser leurs propres factures énergétiques le temps qu'ils installent leurs éoliennes. Au-delà de ce dialogue de sourds à l'échelon européen, autant dire que les foyers français n'ont pas fini de se faire du souci pour leurs notes d'électricité. Les détracteurs de la démarche de Bruno Le Maire ne manquent pas non plus de souligner certaines contradictions de Paris. Dans la mesure où ceux-ci estiment que le cours de l'électricité est élevé, EDF engrange logiquement des profits grâce à la production de ses centrales nucléaires. L'électricité de ces dernières alimente ce même marché de gros, aujourd'hui pointé du doigt par l'exécutif tricolore. Mais les conséquences d'un coût trop élevé de l'énergie ne se cantonnent pas à la comptabilité des entreprises qui la fournissent, Bien avant cette envolée du cours du kilowattheure, la facture moyenne des Français avait déjà augmenté de plus de 50% entre 2010 et 2020. Une conséquence directe de la politique nationale de développement des énergies renouvelables, mais aussi de la libéralisation du marché de l'énergie impulsée par Bruxelles. Une tendance difficile à encaisser pour les acteurs économiques d'un pays déjà champion mondial de la pression fiscale. Économiquement, cette hausse du coût de l'énergie est un avantage compétitif, du moins pour les entreprises françaises, notamment face à leurs concurrentes européennes. Pourquoi donc permettre à la France de recouvrer un tel avantage?
Thank you.